Bonjour, vous écoutez l'épisode 6 des Dessous de la cosmétique, le podcast qui vous dévoile et vous explique avec clarté et sincérité le monde de la cosmétique. Je suis Julie Magan-Castel, biologiste, chimiste et cosmétologue spécialisée en cosmétique naturelle. Et aujourd'hui, nous allons parler de réglementation cosmétique. Et plus précisément, les annexes du règlement en vigueur. Alors, contrairement à ce que l'on peut penser en écoutant certains médias, la cosmétique, c'est une industrie qui est strictement réglementée, et surtout en Europe. Le règlement européen, il est actualisé fréquemment, et le dernier date de 2009. Son petit nom de code, c'est le règlement 1223-2009. La réglementation, ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Ça peut laisser place à quelques interprétations. C'est pourquoi, lorsqu'on veut travailler dans le domaine de la réglementation, il faut une grande expertise et il faut aussi connaître les us et coutumes de l'industrie. Souvent, la réglementation, c'est un vrai service à part entière dans les grandes entreprises de cosmétiques. Et lorsqu'on est une plus petite entreprise, on peut faire externaliser la gestion de la réglementation, mais souvent, il est quand même difficile de gérer ça si c'est pas notre corps de métier. Alors, je vais pas vous expliquer tout en détail aujourd'hui dans ce podcast, et puis d'ailleurs, j'aurai pas les connaissances pour faire quelque chose de vraiment très détaillé, mais j'aimerais insister sur certains points qui sont souvent méconnus. Je voudrais donc insister sur ce qui n'a pas très bien l'air assimilé par certains médias, et donc je nomme la sûreté de nos ingrédients en cosmétique. Alors, pour survoler tout ça, nous allons voir les différents annexes qui sont au règlement 2009. Donc, je voudrais commencer avec l'annexe 2. Et cette annexe 2, qu'est-ce que c'est ? C'est tous les ingrédients qui sont bannis dans nos cosmétiques. Donc, c'est une liste de 1300 ingrédients, ce qui est énorme, ce qui est vraiment énorme, qu'on ne pourra jamais retrouver dans les cosmétiques qui sont vendus dans l'Union européenne. Comme point de comparaison, par exemple, aux États-Unis, donc les États-Unis, la réglementation cosmétique, elle est régulée par la FDA, et eux, dans la réglementation, ils ont seulement une vingtaine d'ingrédients qui sont bannis. Donc c'est ridicule comparé à nous en Europe. Donc c'est vraiment pour vous dire qu'il y a un gros travail qui a été fait derrière, un travail scientifique, pour assurer la sécurité des cosmétiques. Et donc ce chiffre, les 1300 ingrédients, c'est vraiment un vrai gage de sécurité pour les consommateurs. Alors pour donner un petit exemple d'une famille d'ingrédients qui a fait fortement parler d'elle-même ces derniers temps, les parabènes. Donc pour rappel, les parabènes, c'est une famille de molécules dont certains ont été ou sont encore utilisés comme conservateurs en cosmétiques. Alors, ils ont fait un gros bad buzz, donc ils ont été très connus pour leur bad buzz, car certaines des molécules ont été suspectées de déranger le système hormonal. Donc en 2014, de nouvelles molécules sont interdites et ajoutées à la liste du coup de ce fameux règlement 2009, à l'annexe 2 dont on vient de parler. Et parmi celles-ci, il y a 5 parabènes de type plomb. Donc je vous ai dit, les parabènes, c'est une famille de molécules, donc c'est-à-dire c'est un groupe qui comporte plusieurs types de molécules. Et parmi ces molécules, il y en a qui ont des chaînes carbonées plus ou moins longues. Et en fait, on s'est rendu compte que les parabènes plus longs, effectivement, ils sont suspectés de dérégler le système hormonal. Donc là, par exemple, en 2014, il y a le pentylparabène qui a été ajouté à cette fameuse liste pour être totalement banni en cosmétique. Cependant, les petits parabènes, eux, ils ont fait du mal à personne, tout se passe bien, ils présentent pas de risque, ils sont considérés comme sains. Et pourtant, ils ont bénéficié, ou au contraire pas bénéficié, mais ils ont malheureusement hérité de la mauvaise image des longs parabènes, sans aucune raison apparente. Pourtant, ils conservent bien, ils présentent beaucoup moins de risques d'allergie que certains autres conservateurs avec lesquels on les a remplacés pour faire face à ces attaques médiatiques. Donc c'est-à-dire, ils ont eu une mauvaise réputation pour rien, à cause juste d'autres molécules qui sont dans la même famille que ces petits parabènes. Du coup, les industries, même si c'est quelque chose qui est sain dans leur cosmétique, elles ne veulent pas que le consommateur pense que le cosmétique n'est pas sain. Du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Ils reformulent, ils changent le conservateur. Et ils remplacent par quoi ? Alors déjà, ils remplacent en toute hâte, parce que souvent, quand il y a une mauvaise réputation comme ça, il faut se presser. Et donc, ils vont remplacer par un autre conservateur. Et quelquefois, ils remplacent par un conservateur qui peut avoir plus de risques d'allergie. Parce que les petits parabènes, donc quand je dis petits parabènes, vous pouvez comprendre méthylparabène et éthylparabène. Donc ces deux molécules-là, elles présentent beaucoup moins de risques d'allergie que certains autres conservateurs qui ont été utilisés pour les remplacer. Et tout ça à cause des attaques médiatiques. Donc ça, c'était seulement une annexe du règlement européen. Il en existe d'autres. Il existe par exemple une autre annexe qui va être une liste d'ingrédients qui va être restreinte. C'est-à-dire que leur concentration peut être restreinte, la zone d'application peut être restreinte, donc la zone d'application du produit fini, hein. La population démographique visée par le cosmétique peut être restreinte aussi. Donc par exemple, les produits qui vont être en contact direct avec les yeux auront des restrictions plus strictes forcément qu'un produit qui va être mis pour les mains. Vous vous imaginez bien que votre gel hydroalcoolique favori en ce moment, qui a 70% d'alcool, il passera pas pour une application près des yeux. Et de manière générale, les zones d'application des cosmétiques qui entraînent du coup une absorption plus importante de ceux-ci, elles vont être plus restreintes en termes d'ingrédients. Donc je pense notamment aux muqueuses, aux contours de l'œil où la peau elle est plus fine, du coup où il y a plus d'absorption, et aussi il y a des risques de se mettre le produit dans l'œil, aux lèvres, aux peaux des bébés aussi. Donc c'est pour ça que des fois il va y avoir des ingrédients qui vont être restreints pour une utilisation finale sur les bébés. Donc le règlement de 2009, il liste aussi certains ingrédients comme étant des conservateurs, des colorants et des filtres solaires. C'est-à-dire que si on met tel ingrédient, et bien tel ingrédient, selon le règlement, c'est un conservateur. Il est connu pour cette fonction. Donc ça veut aussi dire que des fois, il se peut que vous entendez des claims, des revendications faites par certains marketeurs qui vont dire que le produit ne contient pas de conservateur. Mais sauf que si votre produit, il contient de l'eau, il faut bien qu'il soit conservé par quelque chose, il faut bien qu'il soit protégé des contaminations microbiennes. Donc ça veut dire que le marketeur va jouer un petit peu sur les mots. Et en fait, quand elle dit qu'il ne contient pas de conservateur, c'est qu'en fait, le produit ne contient pas de conservateur qui est listé sur cette annexe. Donc, c'est l'annexe 5. Mais il y a plein d'autres molécules. Donc, dans un épisode précédent, on a parlé des glycols qui pouvaient aider à la conservation, qui ne sont pas listés comme un conservateur. Donc, c'est-à-dire que les glycols, on en a parlé dans l'épisode sur l'eau micellaire, donc l'épisode 3. Les glycols, leur première fonction, ça va être d'être humectants, c'est-à-dire qu'ils vont aider la peau à rester hydratée. Et pourtant, ils vont quand même aussi aider à lutter contre les contaminations microbiennes. Ça veut dire que le produit va avoir moins de chances d'être contaminé. Donc, ça, c'est une technique de marketing. Bon, après, je ne blâme pas du tout parce qu'en réalité, je n'ai rien contre les conservateurs. Et au contraire, je pense que les conservateurs sont très utiles, qui sont nécessaires même, surtout si le produit contient de l'eau. Et qu'il ne faut absolument pas les bannir. Pour moi, un produit contaminé, il fera beaucoup plus de mal si vous le mettez sur votre peau qu'un produit qui contient un chou de conservateur synthétique. Donc l'eau des produits, ils accueillent gentiment toutes les petites bactéries hein, qui veulent bien s'y proliférer. Et il y a plein d'occasions pour que notre produit soit mis en contact avec des bactéries. Hein. Donc si par exemple vous mettez votre doigt dans votre pot de crème, sur nos doigts il y a plein de bactéries. Si vous touchez l'applicateur de votre gloss avec vos lèvres, ce qui est fait pour... Hein. Et du coup, ça veut dire que là aussi, il y a une contamination. Lorsqu'on rebouche pas notre gel douche et qu'il reste dans la douche, bah, du coup, il y a l'humidité, tout ça, c'est encore, ça aide à la prolifération bactérienne. Donc, toutes ces petites occasions-là va en fait mettre la bactérie dans le produit. Et du coup, bah, s'il n'y a pas de conservateur, le produit va gentiment accueillir la bactérie et attendre qu'elle prolifère toute seule dans le produit. Et s'il y a un conservateur, bah, du coup, le conservateur va éviter que la bactérie se prolifère au sein du produit. Ne vous méprenez pas non plus, je ne dis pas que tous les conservateurs sont bons, mais comme toute catégorie d'ingrédients, il y a des champions et il y a des moins bons. Parmi les moins bons, je pense notamment à la méthylazothialosinone, donc aussi appelée MIT, qui a été très utilisée dans les années 70 et plutôt abandonnée 20 ans après pour son caractère allergisant, ou en tout cas à cause de son caractère allergisant. Donc je répète le nom de l'ingrédient parce que si vous voulez le mémoriser un petit peu pour essayer de l'éviter, c'est la méthylisothiazolinone. La méthylisothiazolinone, MIT. Alors, pour résumer, qu'est-ce qu'il y a dans les annexes de notre règlement cosmétique? Il y a une liste négative de plus de 1300 ingrédients qui sont bannis, une liste d'ingrédients qui sont restreints, et des listes positives d'ingrédients considérés comme conservateurs, colorants et filtres solaires. Donc le but de cet épisode était de poser les bases, de vous montrer que les ingrédients de nos cosmétiques sont largement testés, et de vous montrer qu'en Europe aussi on a une réglementation qui est des plus strictes, donc qui protège au mieux le consommateur. Ainsi, je voulais vous amener aussi gentiment à vous questionner sur l'ampleur des critiques médiatiques de certains ingrédients. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous en savez davantage sur la réglementation cosmétique. Un nouvel épisode sortira samedi prochain et vous pouvez retrouver les notes de cet épisode sur mastel.fr dans la rubrique Les Dessous de la Cosmétique. Mastel, ça s'écrit M-A-S-T-E-L et c'est la contraction de mes deux noms de famille, Magan et Castel. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à poser vos questions, à indiquer ce que vous aimeriez entendre par la suite. Je suis toujours preneuse de bonnes idées. Ou de toute idée d'ailleurs. Vous pouvez dès aujourd'hui vous abonner au podcast Les Dessous de la Cosmétique sur différentes plateformes de podcast, dont Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Vous pouvez aussi suivre son actualité sur Instagram et sur Twitter avec l'identifiant mastel-cosmétique en anglais au pluriel. Aussi, et bien sûr, n'hésitez surtout pas à partager ce podcast avec vos amis si vous pensez qu'ils pourraient l'apprécier. Je vous remercie. Je vous souhaite une très belle semaine et vous donne rendez-vous samedi prochain pour un épisode sur les tests faits sur les animaux. Bye !